Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, spécial objet. Vous avez-vous déjà demandé d'où provenait tout ce que vous voyez autour de vous? Ou déjà demandé où va tout ce que vous ne voyez plus? Dans cet épisode spécial, Aube s'est penché sur les choses qui, dans notre quotidien, semblent bien banales, mais qui finissent inévitablement dans un dépotoir près de chez vous. Au sommaire, Cégep Vert ou l'art de réinventer le recyclage, le revalorisateur de matière, Barjavel avec la télévision œil de demain, les inventions dans les années folles. Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé? Objet. Les choses que tu possèdes finissent par te posséder. L'histoire a commencé lorsque ma cafetière a rendu l'âme. Pas une cafetière héritée de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère ou même de ma mère. Non, 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 non. Une cafetière achetée hier. Il y a 365 dodos. Je pensais avoir fait une bonne affaire. 65 piastres dans une petite boutique spécialisée. De fabrication que je pensais solide. J'avais vérifié la possibilité de remplacer le Pyrex. Analysé tous les points de jonction, de friction. Ses articulations, sa fabrication. Je pensais avoir fait le tour de la question. Lorsque le drame est arrivé, les yeux ensoleillés par la jolie matinée, j'ai regardé perplexe le minuscule morceau de plastique fracturé sur le plancher. Je venais de casser l'axis mundi de cet objet. J'ai passé une partie de mon matin décontenancé à essayer de le réparer. Puis, j'ai téléphoné à boutique, au fournisseur. J'ai remonté jusqu'à accompagner. J'ai sorti mon petit tube de Crazy Glue tout figé. Je me suis amusé un certain temps. C'était de l'acharnement thérapeutique. Dans l'errance de mes pensées non caféinées, si je divise 65$ par 365 utilisations, chaque fois que je me suis servi de cet objet m'a donc coûté 17 sous. Je me suis dit que j'en avais probablement eu pour mon argent. Bon, c'est bien drôle de connaître ce genre d'infos, mais ça me dit toujours pas ce que je vais faire du corps. Est-ce que ça se recycle? Est-ce que je peux l'envoyer au réemploi? Tu sais, des fois, il y a du monde plus élevé que moi qui pourrait peut-être en faire des miracles. Moi qui jette jamais rien, j'étais condamné tel un meurtrier à larguer cet objet dans la nature pour les générations futures. Parce que magasiner, c'est l'activité que je pense que je déteste le plus. À part probablement magasiner, je me suis fixé aucune limite de prix. Aucun. Je vais m'acheter LA meilleure cafetière sur le marché. Après avoir fait le tour des magasins, je me suis rendu compte qu'aucun produit n'était à l'abri d'un prix. Maintenant que j'avais démonté l'objet de ma convoitise en pièces détachées, je me suis rendu compte qu'il m'était impossible, en tant que consommateur conscient, d'acheter une autre cafetière. Tout était fait pour être jeté, que ce soit à court, moyen ou long terme. Qu'importe le prix que j'étais prêt à payer, tout ce qui nous entoure a une durée de vie. Est-ce que la qualité existe encore? Mais qu'est-ce que la qualité? Qu'est-ce que la qualité?
Le verre est à la mode. De plus en plus, les préoccupations environnementales entrent dans les mœurs, à tous les échelons et dans toutes les sphères de notre vie. La vie au bureau, le domicile familial, pendant les voyages, quand on consomme ou quand on achète de la nourriture. Et quoi de mieux que d'intégrer le virage vert au sein des collèges, là où la jeunesse prend des actions et s'engage. Alors que les coupes gouvernementales mettent à mal les conditions d'enseignement et alors que la question du décrochage scolaire est sur toutes les lèvres, il est intéressant de se pencher sur les actions d'une jeunesse qui malgré tout souhaite agir, la tête haute, pour que des règlements dans les collèges pensent autrement leur consommation et proposent des alternatives. Parlons aujourd'hui des collèges comme microcosme d'expérimentation dont on devrait parler davantage. Il existe au Québec une certification en gestion durable qui existe depuis 2004, une certification environnementale spécifique au milieu collégial, public et privé. En 2011, le projet évolue pour devenir la première et unique certification de développement durable pour le milieu collégial au Québec. Cette certification a été mise en place par Environnement Jeunesse, un organisme créé en 1979 par des jeunes qui souhaitaient poser des gestes en faveur du développement durable dans l'environnement collégial. Encore aujourd'hui, Environnement Jeunesse met en place différentes actions de plus ou moins grande envergure afin de favoriser la prise de conscience des enjeux environnementaux auprès des populations des collèges québécois. Mesures d'économie d'eau et de recyclage de papier, certes, mais aussi mise en place d'un code d'achat responsable, mise en place de réseaux de transport actifs, donc le covoiturage ou l'encouragement au déplacement en vélo, l'intégration du développement durable dans l'enseignement général, le développement de partenariats avec des acteurs sociaux ou des mesures favorisant le bien-être des employés. Bref, cette certification est une sorte de certification LEED du collégial touchant autant à l'environnement social que naturel. Le Collège de Rosemont, chef de file en environnement depuis le début des années 90, poursuit son implication pour la cause, tant avec les différentes instances de la ville de Montréal qu'avec ses partenaires établis, tels que l'ACUPER, Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement, Environnement Jeunesse et Recycle Québec. Après plusieurs années d'efforts, le bilan est plus que positif et le Collège a démontré hors de tout doute que l'environnement, eh bien, c'est payant. Il faut cependant comprendre que rien n'a été facile et n'a été pris pour acquis depuis la mise en œuvre de leur politique institutionnelle de protection de l'environnement et du développement durable. Depuis 2005, le collège est certifié Cégep Vert Niveau Excellence par Environnement Jeunesse et le collège continue à innover dans ce vaste chantier pédagogique de collectivité viable où chacun a son rôle à jouer. L'un de ces bâtiments a même reçu la certification LEED Argent par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Pour encourager l'engagement environnemental de chacun, le meilleur moyen qu'on a trouvé au Collège Rosemont suppose de passer par l'éducation à la citoyenneté. En tant que cégep en milieu urbain ayant une mission éducative avant tout, le cadre enseignant favorise un changement de comportement et d'attitude dans chaque geste du quotidien, aussi bien des élèves que des profs. C'est bien beau le recyclage, c'est bien beau la récupération, mais avant tout il faut revoir nos modes de consommation. La réalité urbaine fait en sorte que souvent nous consommons bien au-delà de nos besoins. Observons seulement nos modes de déplacement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une automobile lorsque l'on habite en ville avec un système de transport en commun? Nous faut-il vraiment les plus grandes marques, les dernières tendances de vêtements pour nous distinguer dans nos cercles d'amis? À l'heure de la COP 21 et du danger que Naomi Klein présente de manière extrêmement informée dans « Tout peut changer », devant l'urgence de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de réduire notre niveau de consommation d'énergie, le Collège Rosemont a décidé d'engager le mouvement avec un programme d'efficacité énergétique. Il a réalisé des économies d'argent conséquentes depuis cette décision. Après plusieurs années à vouloir tout récupérer, la démarche vise désormais à réduire la consommation à la source, histoire de diminuer les déchets purement et simplement. Le Cégep favorise la synergie et la concertation du milieu pour prendre les meilleures décisions afin d'impliquer toutes les ressources disponibles, les gestionnaires, les profs, les employés de soutien, les enseignants et les étudiants. Réduire, réutiliser et recycler. Mais par où on commence ? Le fait d'être un collège dans une grande ville leur a permis dès le début de ce virage vert de créer des liens avec des entreprises de récupération. Ils ont même été en mesure de créer des liens avec la Canadian Polystyrene Recycling Association de Mississauga pour récupérer le polystyrène, incluant le styromousse. Aujourd'hui, le Cégep Rosemont vise à offrir de moins en moins de produits à base de polystyrène. Ils augmentent également leur programme de sensibilisation à l'environnement, histoire de réduire indirectement leurs coûts reliés à la gestion environnementale. Agir, c'est bien. Anticiper et voir à long terme, c'est vraiment mieux. Et le Collège Rosemont, suivi de près par les collèges et cégeps ANSIC, André Grasset, Bois de Boulogne, Marie-Victorin et 30 autres cégeps de toute la province ont fièrement décidé que l'éducation à la préservation de l'environnement et le fait de penser un petit peu plus loin que le bout de ses pieds faisaient partie intégrale de la formation du citoyen responsable. Avec du temps et de la patience, tout est permis. Un virage vert se réalise au fil de plusieurs années alors qu'un changement de comportement s'opère au quotidien. Cela permettra de mettre en place un programme de récupération et de recyclage, mais avant tout un programme de réduction en vue de former des citoyens responsables. Pour en savoir plus sur Environnement Jeunesse, leurs actions et la certification Cégep Vert du Québec, les actions en faveur de l'environnement des différents collèges et cégeps, je vous donne rendez-vous sur enjeux.qc.ca.
Narration et adaptation d'Aurélie Suberchico.
Je flânais le long d'une plage quand je vis devant moi, flottant porté par la marée, un beau coffret de bois. J'ai pris le coffret, l'ai ouvert, me croira qu'il le veut. Dedans il y avait un, juste devant mes yeux. Dedans il y avait un, juste devant mes yeux. Heureux de cette découverte, je courais comme un fou chez un antiquaire, un voisin qui achetait de tout. À peine entré, il m'a crié, avant qu'on parle l'argent, sortez-moi d'ici ce, ou j'appelle un agent. Sortez-moi d'ici ce, ou j'appelle un agent. Ne tenant pas pour ce coffret à faire de la prison, j'ai pensé l'offrir à ma femme qui était à la maison. Mais elle a hurlé comme une folle en envoyant le contenu. Sors d'ici avec ce, ne reviens jamais plus. Sors d'ici avec ce, ne reviens jamais plus. Débarrassé du coffret encombrant, je cherchais par toute la ville et trouvais un mendiant, me disant enfin celui-là, je vais lui faire plaisir. Mais quand il a vu le, il s'est mis à courir. Mais quand il a vu le, il s'est mis à courir. Esclave du coffret, de longues années j'ai souffert. Puis un jour je suis arrivé avec devant Saint-Pierre. En me voyant, sa voix fit trembler le ciel de colère. Tu oses apporter ce, remporte-le sur la terre. Ose apporter ce, remporte-le sur la terre. La morale de cette histoire est que si vous voyez flottant porté par la marée un très joli coffret, c'est peut-être un trésor, prenez-le, ouvrez-le, oui mais si vous y trouvez-le, laissez-le où il est. Si vous y trouvez-le, laissez-le où il est.
Nous savons tous que nous produisons des tonnes et des tonnes de déchets et d'immondices qui s'entassent parfois sous terre, parfois en surface comme des montagnes de vidange au sommet vert de gris éternel. Mais toute cette matière était à l'origine des ressources naturelles, que ce soit du bois, des minéraux, du pétrole ou des végétaux. Nous pouvons nous débarrasser impunément de tous ces cossins et bidules machin truc, mais cela implique de continuer d'exploiter les ressources de la terre qui méritent un peu de répit en ces temps de grands tourments. Il faut stopper cette course infernale de surconsommation. Nous allons devoir trouver des solutions et nous adapter aux nouvelles exigences d'une société responsable. De vieux métiers devront s'oublier pour laisser place à de nouvelles vocations, des éco-professions qui nous aideront à passer l'éponge sur les erreurs de nos ancêtres pour passer à une nouvelle ère biodégradable. Déjà, les friperies et ressourceries font partie intégrante de nos quartiers et villages, mais ce n'est pas encore à la hauteur du problème à surmonter. Imaginons une société qui ne jette rien, sinon quasiment rien. Plus d'incinérateurs, plus de dépotoirs, mais des escadrons de revalorisateurs de matières qui parcourent le monde afin de faire revivre nos objets lâchement abandonnés. Un peu comme un restaurateur d'œuvres d'art, le restaurateur ou revalorisateur de matière devra redonner vie aux objets hétéroclites que nous avons envoyés au reconditionnement. Cependant, il n'est pas nécessaire que l'objet revalorisé redevienne exactement ce qu'il était. Ainsi, un réfrigérateur peut devenir une bibliothèque, une vieille télé, un aquarium et un séchoir à cheveux, une lampe postmoderne. Ces artistes devront développer une imagination bien aiguisée ainsi que plusieurs aptitudes propres à leur emploi. Des notions de menuiserie, d'électricité, d'électronique, des connaissances en arts plastiques pour refaire une beauté aux choses usées. Ces revalorisateurs, il en existe déjà, certains en amateurs, d'autres qui en tirent des revenus. Chose certaine, ce n'est pas le boulot qui manque dans ce domaine. Des formations existent dans certaines municipalités pour revaloriser la matière usagée. Ça pourrait bien être le début d'une profession fort noble, apte à freiner un peu les effets de la surconsommation. Si, en Afrique, on est capable de se construire des toits de maison avec de vieilles canettes de boissons gazeuses, imaginez les miracles que l'on pourra réaliser avec les multiples petits trésors que l'on trouve dans nos ruelles, particulièrement durant la période de déménagement. Les vidanges des uns sont les trésors des autres. En attendant ces sauveurs de bidules, je vous encourage à commencer à vous entraîner à revaloriser la matière et qui sait, vous deviendrez peut-être un jour une imminence en la matière.
Un texte tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration de Martin Junior Pelletier. « 65% des gens passent leurs heures de prétendu loisir à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Simplement, le bonheur. Depuis quelques années, les gens se préoccupent de plus en plus de leur santé. Alimentation, activité physique, développement personnel. Par ailleurs, on rencontre un nombre accru de maladies liées au stress. 80% des maux occidentaux sont causés par le stress. Les médecines, tant traditionnelles qu'alternatives, sont débordées. Et la santé là-dedans? Vivre plus simplement amènerait sans aucun doute la majorité de la population à avoir une meilleure relation avec la vie. Le concept de simplicité volontaire n'est pas nouveau, mais reste méconnu. On la compare souvent à un mouvement radical qui stipulerait tout simplement de vivre de rien, ce qui n'est pas le cas. La simplicité volontaire apporte une solution intelligente à bon nombre de vies malheureuses ou malades. Une vie plus simple équivaut à travailler moins et conséquemment à plus de temps passé avec ceux qu'on aime, à faire des choses qui nous passionnent. Vivre simplement implique évidemment un effort de conscientisation. Il importe tout d'abord de prendre conscience de ce qui bouffe notre temps, mais surtout notre énergie. Mais qu'est-ce qui bouffe notre énergie? Les comptes à payer, le magasinage de Noël, les embouteillages, faire l'épicerie, le ménage, le patron pas facile, les clients chialeux, pas aimer son travail, passer son temps au travail, chercher du travail, bref, la publicité, les nouvelles de 17 heures, se mettre en colère, se faire du souci, avoir peur, avoir des allergies à cause du système d'aération déficient du bureau, avoir mal au dos depuis 3 ans, parce qu'on est assis 40 heures par semaine au même endroit. La première étape, c'est de faire la liste de ce qui bouffe votre énergie. Faites aussi une liste de ce que vous feriez si vous aviez plus de temps. Passer du temps seul, faire de l'artisanat, de la danse, du yoga, cuisiner, écrire, peindre, lire. Là où la simplicité volontaire devient intéressante, c'est quand les rapports avec l'énergie changent. Le travail, c'est de l'énergie. Souvent, beaucoup d'énergie. Surtout quand on n'aime pas ce qu'on en fait. Il suffit de se demander pourquoi on travaille autant. Pour payer la maison, pour se vêtir, pour s'offrir des sorties, pour payer les comptes, la voiture. On a sans cesse l'impression de ne pas avoir notre argent. Il y a toujours quelque chose à payer. A-t-on réellement besoin d'une aussi grosse maison, d'une voiture, de payer une fortune pour s'habiller? Quand on commence à se demander si on a vraiment besoin de tout ça, on en arrive souvent à une réponse négative. La sollicitation publicitaire nous incite sans arrêt à consommer des biens et des services dont on pourrait fort bien se passer. Pensez aux innombrables gadgets qui ne servent qu'une fois ou à toutes les sorties qui ne font que vous fatiguer davantage. En ayant plus de temps, on pourrait dépenser moins d'argent pour faire soi-même ce que l'on paie. Je fais allusion ici au repas, au ménage, aux cadeaux, aux coupes de cheveux, aux vêtements, aux réparations de toutes sortes. Au gré de mes lectures, j'ai récolté quelques trucs que voici. En premier lieu, on pourrait se débarrasser des choses que l'on garde inutilement pour créer de l'espace. Et qui sait, peut-être déménager dans plus petit. Et moins cher. En deuxième lieu, simplifier dans le matériel de maison. Par exemple, le couvert, la literie. On pourrait aussi fréquenter une bibliothèque. Quand on magasine, attendre 30 jours pour voir si on veut vraiment l'objet qui nous tentait. On pourrait aussi éliminer les sorties, qui nous grugent du temps et de l'énergie. On pourrait aussi réévaluer les tâches ménagères sous un nouvel angle. Le plancher a-t-il vraiment besoin d'être balayé et lavé? La literie a-t-elle besoin d'être lessivée chaque semaine? Est-ce un acte barbare que de mettre le même pantalon ou chandail deux fois de suite? Faire un budget pour voir où va votre argent, c'est parfois surprenant. Cuisiner des recettes plus rapides, plus faciles. Arrêter de regarder la télé. Cesser les mondanités, lire les journaux et autres revues à potins. Fréquenter les friperies. Réutiliser le plus possible. Dans le livre « Votre vie ou votre argent », propose quelques exercices très pertinents pour changer notre relation avec l'argent. Faire le bilan de tout l'argent que vous avez fait au cours de votre vie à partir de l'enfance et évaluer ce que vous avez économisé et acquis, le montant que vous auriez si vous vendiez tout. Évaluer ce que votre emploi vous coûte vraiment en temps et en argent et calculer votre salaire horaire réel, que ce soit le coût du transport, le resto, l'habillement, le maquillage. Avoir envie de se simplifier la vie est une chose. Arriver à le faire demande de la vigilance, beaucoup d'efforts et de l'imagination. Freiner le rythme de vie ne se fait pas en une semaine. Il s'agit ici de changer des comportements de consommation que l'on a souvent depuis des nombreuses années. Changer notre perception du travail aussi. Contrairement à ce que l'on peut penser, il est tout à fait possible d'avoir un emploi plus simple. Il faut se donner le temps de réfléchir à ce que l'on a envie de faire et d'effectuer des recherches dans ce sens. La simplicité volontaire exige un effort, mais la liberté que l'on en retire est incontestable. Moins d'argent de dépenser, moins de besoins luxueux et inutiles, moins d'heures à travailler, plus de temps pour nous-mêmes, pour ceux qu'on aime. Et surtout, plus de temps pour la vie.
Dans la ligne de notre faisceau tracteur dans un instant, Monseigneur.
Vos hommes ont-ils désactivé l'hyperpropulsion du Faucon Millenium?
Oui, Monseigneur.
Bien. Préparez-vous à la manœuvre d'abordage et armez vos rayons paralysants.
Oui, Monseigneur. Lieutenant, à vos ordres.
Oh! Mais on s'en fiche de l'hyperpropulsion du Faucon Millenium! Elle est réparée! Oh!
Alertez tous les commandements. Branchez les faisceaux tracteurs. Nos vaisseaux ont repéré le Faucon Millenium, Seigneur. Mais il est entré dans un champ d'astéroïdes et nous pouvons pas...
Vos histoires d'astéroïdes ne m'intéressent pas, Amiral. Je veux ce vaisseau, pas des excuses.
Oui, c'est...
Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous offrir un excellent service aujourd'hui?
Bonjour, monsieur. Ce serait pour faire un dépôt, s'il vous plaît.
Mais c'est notre spécialité, mon cher.
J'avoue que c'est un peu délicat. J'ai décidé de vivre plus simplement, d'acheter du temps de qualité pour mes enfants. Bref, de diversifier mon portefeuille de souvenirs.
Ah, être versus savoir. Telle est notre devise. Nous aidons les petits épargnants depuis maintenant 5 générations. Mais concrètement, vous reliquez quel type de produits financiers? Une hypothèque sur vos bonnes actions? Planifier quelques souvenirs pour vos vieux jours?
Voyez-vous, je suis en plein démagasinage en ce moment et j'aurais besoin de services en devises étrangères. Le problème, c'est que j'ai rarement investi dans ma trésorerie relationnelle et mes épargnes d'actions désintéressées sont au plus bas. Vous savez, avec tout ce qu'on accumule de nos jours, démagasiner de maison, ce n'est pas évident.
Je vois. Avez-vous déjà songé aux œuvres de charité, les églises, le réemploi? Parfois, ceux-ci viennent gratuitement vous aider à vider de la chambre au grenier.
Très, très intéressant. J'ai aussi un assez grave problème de temporalité en ce moment, mais surtout avec mes jeunes enfants. Vous savez, ce genre de problème, je le n'ai sur 5 jours semaine, de 9 à 5.
Ça tombe bien. On a un forfait spécial pour les parents ayant envie d'offrir du temps de qualité à leurs enfants. Conciliation, vacances-travail, avec forfait de congés parentaux, tout ça à taux de rendement préférentiel.
Et ça fait une éternité que j'ai pas parlé avec ma mère.
Pour ce genre de transaction simple, nous avons un livret de 10 communications gratuites avec votre mère, renouvelable en 5 paiements faciles de 10 minutes d'écoute attentionnée, à consommer sans modération.
Wow, intéressant.
Et surtout, abordable. Vous commencez à comprendre que le bonheur, mon cher monsieur, ne s'achète pas dans une boîte de carton.
Ça me fait penser, hier, justement, un homme déguisé en panda m'a offert des câlins gratuits dans le métro. J'aimerais les faire fructifier pour semer quelques plants de petits bonheurs autour de moi. Est-ce possible?
Monsieur, c'est exigeant, mais c'est très légitime. Qualité versus quantité. Que diriez-vous d'investir dans un rire?
Vous voulez dire un REER?
Non, un rire, c'est simple et efficace. Vous marchez dans la rue, contact visuel, vous lancez un rictus. On vous rend votre risette, chasse et croisée de sourire, et voilà, vos journées sont faites.
C'est si facile que ça?
En fait, c'est tellement simple. La vie est parsemée de petits souvenirs tout simples, tout banals. Suffit simplement d'être conscient des gens autour de vous. Ouvrir une porte, rendre service, être attentionné.
Eh bien ça alors, avez-vous des cartes fidélité?
Ah, mais bien sûr! Vous savez qu'être membre de notre institution a ses avantages.
Être versus avoir, vous disiez.
Seulement 5 paiements faciles, limite de 2 par client.
Ah, vous voilà! Je croyais ne jamais avoir à vous revoir et je craignais cependant de ne pouvoir jamais sortir d'ici.
Ne vous inquiétez pas, maître Tubercil. Je ne vous laisserai jamais atteindre un tel degré d'inquiétude ni de solitude.
Grand bien vous fasse. Quelle est la raison de votre venue aujourd'hui?
Nous avons reçu l'intitulé de votre prochaine émission. Je viens justement pour en discuter avec vous.
Je pensais que ce jeu allait vous lasser après notre dernière entrevue.
Oh, grand jamais, les esprits brillants sont mutuellement attirés, et l'intérêt qu'ils se vouent dépasse rapidement la simple et sordide affection de la lassitude. C'est un plaisir de discuter avec vous autant que cela avait été une joie de vous entendre lors de mes sombres heures.
Sombre heure, disiez-vous ?
Passons à autre chose. Je ne souhaite pas en parler, mais disons que vous êtes vous-même l'instigateur inconscient d'un grand projet dont je suis l'arc-boutant.
Oh, joie ! J'ose espérer que ce projet n'implique pas la mort et la destruction.
Loin de là, maître Tubercil. Loin de là. La qualité. Qu'est-ce que ce concept vous indique?
Nous passons donc subitement au mot du jour.
En effet.
Bien, je vois, je n'ai pas tellement le choix.
Non.
Vous me faites froid dans le dos des fois, vous le savez.
Peu importe, exercez-vous.
Avant tout, merci d'avoir retiré les chaînes qui cerclaient d'une poigne malveillante mes mains.
Vous gagnez à vous montrer coopératif.
En ce cas, la qualité me fait surtout penser à la nécessité de vivre. L'homme pourrait bel et bien s'en passer, mais serait-il un homme sans elle?
Sans doute, oui.
Je m'insurge, en ce cas, non. La qualité est l'essence de la vie. Seul un être soumis, incapable de promouvoir ses propres pensées, survit au médiocre. Il vivra comme un âne dans la bestialité, loin du raffinement tout humain de l'esprit et de son œuvre.
Car la qualité est l'apanage du raffinement humain ? Belle nouvelle, n'est-il pas la marque de sa dégénérescence, plutôt ? Le point de rupture entre l'évolution et l'hédonisme obscur. Là où apparaît l'idée de qualité, c'est que l'homme en lui-même s'est refusé à l'égalité, et propose loin de l'unité nécessaire un écart entre ses productions, un écart entre ses membres.
Vous gagnez un point. Mais vous parlez ici à un autre niveau. L'homme qui se respecte vit dans la qualité. Que ce soit la qualité de ses actes, de ses pensées, et s'éloigne le plus possible de la rugueuse obsolescence bête des signes de sa chute. Mais si nous mettons le pied sur le sol essentiel de l'humanité, l'homme... Ah, là, l'honnête homme est dans l'erreur. Il n'est que le résultat égocentrique d'une époque malvenue. Oui, je le dis, tout comme vous. La qualité n'aurait jamais dû naître de l'esprit de l'homme, ou alors aurait-elle dû demeurer la seule source des actions et des productions. Mais l'homme est corrompu depuis le jour qu'il a vu naître, et la vie moderne a donné à l'esprit la faculté de distinguer clairement le monde qui l'entoure. Aussi n'y a-t-il pas seulement la qualité, mais aussi le médiocre, porté haut dans le cœur de chacun par sa facilité.
J'aime entendre cela.
Heureux de l'apprendre.
Une petite balade, vous irez ?
Comment ça ? Me faire sortir, moi, votre
prisonnier ? Allons, allons. Vous êtes dorénavant mon hôte. Je vais dire à mes collaborateurs que vous êtes libre de circuler dans la demeure.
Serait-ce la voie de la liberté ?
Pas encore. Mais à force, vous la gagnerez.
Bien, je vous suis.
Pour moi, tout avait pourtant si bien commencé. L'ambiance était bonne, le DJ excellent, la température agréable, les filles superbes, l'alcool à gogo, la drogue de qualité. Non, indéniablement, mes 33 premières années ont été vraiment réussies. Mais je ne vais pas traverser la vérité. Je ne suis pas un gentil garçon.
Ferme.
Je suis une grosse merde. Un héros moderne, quoi. Mes pantalons, je les trouve dans le Vogue Italie et le Vanity Fair allemand du mois précédent l'acte d'achat. Quant à mes chemises, elles viennent de New York, Tokyo, Bombay, Guétari. Je suis désolé d'être tellement en avance sur vous, mais c'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. Je vous drogue à la nouveauté. Et l'avantage de la nouveauté, c'est qu'elle ne reste jamais neuve longtemps. L'idéal serait que vous commenciez par me détester avant de détester l'époque qui m'a créé. Donc voilà, je me prénomme Octave.
Octave Parango.
Et je m'habille chez ABC. J'ai passé ma vie à vous manipuler contre 75 000 francs par mois. Quand à force d'économie, vous réussirez à vous payer la bagnole de vos rêves, je l'aurai déjà démodée. Je m'arrange toujours pour que vous soyez frustré. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Je jouis dans votre hémisphère droit. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. En ce temps-là, on mettait des photographies géantes sur les murs. Les arrêts d'autobus, les camions, les taxis. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. Et on avait calculé qu'entre la naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. Il avait fallu 2000 ans pour en arriver là.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu Cégep Vert ou l'art de réinventer le recyclage, le revalorisateur de matière, simplement le bonheur. Sans oublier la musique de Jean Raffa avec L'objet. Et à venir, Boris Vian avec Complainte du progrès. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. Avertissement. La télé vous ment.
Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton.
Il était devant elle, elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre. Heureux de se sentir ému, ému de se sentir heureux.
La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Actuellement, nous sommes empoisonnés par les gens qui laissent crier leur TSF, qui nous réveillent avec des marches héroïques. Ou qui, tandis que nous travaillons, nous assomment avec des comptes rendus sportifs.
Qui le passe à Fernand, qui le passe à Isidore, qui le passe à Jules.
Et l'image traversera les murs, ira se promener chez le voisin. On trouvera un match de boxe dans la soupière. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon.
Cyprien, je te défends de caresser les images.
Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès.
Thank you.
autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs.
Dans les années 1920, pour la plupart des achats, les Européens font le tour des échoppes. Le boucher, la droguerie, le boulanger, etc. Aux États-Unis, il est coutume d'acheter bon nombre de choses au drugstore du coin, qui fournit la plupart des biens de consommation courante. Mais les grands magasins sont de plus en plus nombreux et la vente par correspondance est très répandue. Il existe nombre de chaînes de magasins, comme celle des vêtements JCPenney, qui ouvre son 500e magasin aux États-Unis en 1927. Fondée en 1902, elle est notamment connue pour sa marque de vêtements de travail Big Mac, lancée en 1922. La chaîne d'épicerie A&P, quant à elle, ne compte pas moins de 16 000 magasins sur le territoire américain en 1929. En dehors des grands magasins qui pratiquent la vente par correspondance, il existe nombre de catalogues spécialisés. Sears Roebuck & Company, fondée en 1886, est une société qui distribue ses produits dans toute l'Amérique du Nord et centrale. C'est la plus grosse société de vente par correspondance d'Amérique. Et son catalogue dans lequel on trouve absolument tout, y compris des maisons vendues sur plan, est une véritable institution dans les années 20. Elle ouvre en 1925 son premier magasin physique à Chicago. La décennie se caractérise par une importante évolution du confort moderne. La vie est grandement facilitée par nombre d'inventions, que ce soit grâce au réfrigérateur, à la machine à laver ou au rasoir électrique. Jusqu'alors utilisé uniquement dans l'industrie, l'air conditionné à des fins de confort est installé à Détroit, dans le grand magasin G.L. Hudson, en 1924. Régulièrement, des clients, en raison de la chaleur, s'évanouissent. La société a alors décidé d'installer 3 unités d'air conditionné. Très rapidement, les cinémas s'en sont équipés en raison d'une forte baisse d'affluence en été. En 1929, le Milam Building à San Francisco est le premier immeuble de bureau équipé de l'air conditionné. L'hygiène corporelle est facilitée quant à elle par l'apparition sur le marché en 1920 des 2 premiers modèles manuels de sèche-cheveux à racines, le Race et le Cyclone de la Hamilton Beach. En 1925, Jacob Chick, un colonel américain à la retraite, invente le premier rasoir électrique, mais il faudra attendre 1928 avant que le modèle n'évolue et puisse être produit en série. Alors que le travail de bureau se développe partout dans le monde, les petites inventions facilitent le quotidien de millions d'employés. L'agrafeuse de bureau moderne, simple et pratique, apparaît en 1923 et les premiers carnets à spirale en 1924. Les premiers stylos 4 couleurs de l'Educational Exhibition Company de Providence arrivent sur le marché en 1928. Par simple pression, il est possible de choisir la couleur souhaitée. Et enfin, en 1929, le ruban adhésif Scotch facilite la vie des travailleurs. La machine à écrire évolue et l'autotypiste, une machine à écrire pouvant produire simultanément de multiples copies d'un document, est commercialisée en 1927. En 1920, les premiers essais de gravure amplifiée du son sont tentés par des ingénieurs de HMV. Il faudra cependant attendre 1925 pour qu'apparaissent les premiers véritables enregistrements électriques. Ceux-ci se font d'abord avec des micros au charbon, dérivés de ceux utilisés dans les téléphones, assez médiocres. Puis, avec des micros à condensateur très proches de ceux toujours utilisés aujourd'hui. Puis, en 1928, la Western Electric met au point le premier micro électrostatique et General Electric les premiers haut-parleurs dynamiques qui augmentent grandement la qualité sonore. Pour l'écoute des enregistrements, les premiers pick-up électriques, des tourne-disques qui remplacent peu à peu les phonogrammes à pavillon, apparaissent en 1926. Trois ans plus tard, en 1929, la fabrication du phonogramme à cylindre d'Edison, définitivement supplanté par le disque moins onéreux et plus pratique, sera définitivement arrêtée. Le premier jukebox entièrement automatique est mis sur le marché en 1927 par Roe International, permettant désormais au client de choisir son disque favori dans les lieux publics. La ménagère n'est pas en reste côté invention. C'est même une période florissante pour lui faciliter la vie, comme le sous-tend le message de nombreuses publicités de la décennie. La conservation des aliments subit une révolution en 1926. La société américaine Electrolux Serval dépose un brevet d'invention pour un réfrigérateur ménager et le présente sur le marché américain dès la fin de l'année. Ce modèle fonctionnant au gaz est silencieux. L'apparition du grille-pain à éjection automatique marque la décennie. En 1921, l'inventeur Charles Streit obtient le brevet du premier modèle, un produit inventé pour les commerces de restauration en 1919. Il fonde la Water Genter Corporation et débute la production du grille-pain à coque en aluminium. Il pèse près de 9 kg et il est si compliqué à fabriquer qu'un seul exemplaire sort de l'usine par jour, ce qui n'en fait pas un produit de très grande consommation. Il faudra pour cela attendre 1926 et l'invention du Toastmaster Model 1A1, le premier grille-pain à éjection automatique conçu pour un usage domestique, qui permet de griller une tranche de pain des deux côtés simultanément. Pour le plus grand bonheur des amateurs de cocktails, en 1922, Stephen Pavlovsky, propriétaire de la Stevens Electric Company, invente le blender électrique. Dans la dimension pratique, il faut signaler la mise au point de la cellophane étanche en 1928 qui permet de conserver les aliments à l'abri de l'air et l'invention en 1920 du broyeur dévié, connu aux États-Unis sous le nom de macerator ou l'electric pig, qui permet de facilement se débarrasser des déchets solides directement en faisant la vaisselle. Côté ménage, Electrolux, compagnie suédoise fondée en 1910, met sur le marché son premier modèle d'aspirateur en 1921. Le linge lavé en machine peut être repassé sans faux plis grâce au fer à vapeur commercialisé en 1926 par l'entreprise Eldeck de New York. La première balance automatique en 1920 affiche directement votre poids. En 1927, Warren Morrison, ingénieur en télécommunications, met au point la première horloge à quartz en se basant sur l'effet piézoélectrique, plus fiable que les anciens systèmes mécaniques. Des ancêtres des photomatons apparaissent sur les trottoirs et livrent 4 photos différentes pour 10 cents. Les publicités grandissantes se cherchent de nouveaux supports. C'est ainsi que la première enseigne lumineuse clignotante, composée de 14 000 ampoules et de 30 000 mètres de câbles, affiche les résultats des élections sur les 4 faces du New York Times Building en 1924. La fée électricité, largement domptée, permet pour la première fois d'entièrement décorer de guirlandes électriques l'arbre de Noël de la Maison-Blanche aux États-Unis le 25 décembre 1923. Pour mieux mettre en perspective notre ère de dépassement des limites, je vous invite à lire le supplément pour le jeu de rôle « L'appel de Cthulhu » au cœur des années 20, publié par les éditions Sans détour, un colossal ouvrage de plus de 600 pages qui ratisse au pain fin tous les aspects de cette époque tumultueuse. Narration de Philippe Laramé.
Dame pauvreté. La pauvreté est une très vieille femme, malade, laide et dépenaillée, qui pue, aux oripeaux multicolores effilochés, poussant son carrosse de supermarché chargé de vieilleries, reliques ramassées des miettes de la société de pléthore. Les consignes récupérées l'empêchant de crever. Merci, Recycle Québec. Choix difficile, ce soir, du pain ou du vin? Tôt ou tard, les femmes aussi seront légion dans la rue, en ligne pour la tambouille de Pops tout près au parc Émilie-Gamelin. La bienheureuse à temps partiel, accès interdit par décret municipal. Surtout ne pas tomber, surtout pas l'hiver, pas la nuit. Affaissée, terrassée par le pinard ou la bière cheap maxi à 8 degrés. Rien à perdre, sauf sa vieille peau, anyway de trop. Dégoûtant même ses enfants qui l'ont laissé sombrer, occupé par les leurs, le standing et le carrousel à faire tourner, étourdi par le quotidien, la chaîne à graisser, la roue à faire rouler, nauséeux et vidé, mais le soir venu, incapable de s'abandonner au sommeil, petite mort des bienheureux et des innocents. Mais pour la vieille tannante qui a jamais su s'adapter ni au pays ni à la société qu'elle assume, droguée à la résidence ou dans la rue, après tout, qu'est-ce que ça change de plus? Tant de beauté échappée à force de ne pas la nommer, de ne pas s'y attarder, de la garder telle qu'elle est. Oui, même si elle est ridée, qu'elle est vieille et qu'elle pue, comme une graine de ginkgo femelle ratatinée qui pourtant, une fois germée, va produire l'arbre de longévité, comme la forêt pourrissante de feuillus va donner les champignons les plus étranges, les plus guérissants. Chaga, queue de perdrix, réchi, pour ne citer que ceci. Je sens que je dérive, comme elle, la vieille, sans repère, ni lunettes, ni presque plus de dents, encore même plus enregistrée au ministère de la Charité, pas dans le bon continent. Aux Indes, elle serait déclarée sainte, sa douce à Bouddha, le grand détaché. Ici, même les chrétiens, quasiment tous des crétins, trop facile celle-ci, ont oublié que le Galiléen tunique accueillait en priorité les paumés. Comme dans tout l'Occident du Nord, pourtant si nanti. Bon, ça en fera qu'une de plus la nuit du solstice, gelée pour de bon entre deux rondes, que des flics écœurés vont trouver, enfin bien heureuse et ivre pour l'éternité. Bienvenue parmi les siens, ceux qui l'ont jadis vraiment aimée, inscrite à jamais dans la mémoire de la mauvaise conscience de ce monde désamé.
C'était un texte de Annie Schneider du nom de Dame Pauvreté. Pour poursuivre votre réflexion de façon ludique, Micmac à Tire-Larigot, un film de 2009 du réalisateur Jean-Pierre Jeunet. En 1979, au cœur du Sahara, une explosion se produit alors que des soldats français sont en plein travail de déminage. Le téléphone sonne dans un pavillon d'une banlieue française. Basile, âgé de 9 ans, voit sa mère pleurer au téléphone. Son père vient de mourir. 30 années plus tard, Basile reçoit une balle dans la tête, mais il survit, bien que le projectile soit toujours logé dans son crâne. Il perd son travail et se retrouve à la rue. Il est alors recueilli par une bande d'itinérants recycleurs qui survit au cœur d'une cour à scrap. Basile tombe un jour par hasard devant les bureaux des deux compagnies. L'une a fabriqué la mine qui a tué son père, l'autre a fabriqué la balle qui lui est rentrée dans le crâne. Il se souvient du logo des deux armes qui ont provoqué tout ce qui lui est arrivé. Avec l'aide de ses amis, Basile va tenter de faire payer à ces deux grandes entreprises le mal qu'elles lui ont fait, en les faisant s'accuser mutuellement. Le miroir de Cassandre, un livre de Bernard Werber où l'action se déroule dans les vidanges de la société de post-consommation. Cassandre a le don de voir le futur, mais elle n'a aucun souvenir de sa vie avant la mort de ses parents dans un attentat en Égypte. Après s'être enfouie de l'école avec une montre mystérieuse, elle trouve refuge à Rédemption, un village improvisé dans une décharge dans laquelle vit une bande de marginaux qui se sont attribués des titres de noblesse. Mais pendant la nuit, elle les réveille et leur annonce qu'un attentat va avoir lieu. Fight Club, un roman de Chuck Palahniuk, est adapté au cinéma. Le narrateur est un type insomniaque, jeune cadre dans une société automobile qui ne demande qu'une chose, sortir de son quotidien monotone. Au début, le narrateur incarne parfaitement le consommateur lambda et la société de consommation. Garde-robe remplie de marques de luxe, appartement meublé par une panoplie de meubles suédois. Toutefois, il va rencontrer Tyler Durden, avec lequel il fonde le Fight Club, après avoir perdu son appartement, incendié en réalité par ce même Tyler Durden. Le roman critique la société de consommation, la mondialisation, les contradictions sexuelles, idéologiques et physiques. Le roman dénonce l'aliénation des hommes dans une société états-unienne des années 90, contraint de suivre les ordres d'un petit patron, perdant toute possibilité de réflexion personnelle et d'initiative. Matthew Crawford, dans Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail, propose une série d'arguments en faveur d'une forme de travail dont on peut dire qu'elle a du sens parce qu'il s'agit d'un travail vraiment utile. Il plaide pour un idéal, celui du savoir manuel et du rapport qu'il crée avec le monde matériel. Le travail manuel permet à celui qui l'exerce de devenir conscient que les objets matériels existent hors de nous. Thank you. puisque ni activistes ni coalitions ne peuvent, par la parole seule, retarder le subtil cataclysme. N'attendez nul autre que vous-même pour passer à l'action. La vue des rangées de voitures stationnées brime votre sens esthétique de la ville belle. Vous exécrez le bruit des voitures qui passent sous votre fenêtre. La pollution saveur gaz carbonique vous tue. Elle tue, mais lentement, et avec moult de guerre en gorge entre-temps. Bref, vous êtes un visionnaire, une idéaliste. Le boycott consciencieux d'une ou l'autre des méchantes pétrolières ne sera pas suffisant. Non pas que nous allons exploser, nous allons seulement perdre jusqu'au souvenir de la qualité de vie. Qu'à une époque, il fut certainement possible de respirer un buisson lilas à une centaine de mètres de là, et que notre qualité de vie actuelle n'est pas un acquis. Change le monde, toi, tout seul. Ton geste, enfourche ton vélo. Car qui peut prétendre à la foi verte qui promène son rafio à gasoline par les rues de la ville? Et que cela ne soit pas par dépit, pauvreté, en attendant d'avoir de l'argent pour s'acheter une pollueuse à quatre roues. C'est un choix. Ce ne sera pas facile, ce virage des habitudes. Cela nécessite un bon grand sac, avec dedans de nouvelles valeurs et des t-shirts propres de rechange. Il faut vouloir, des fois. La ristourne, avoir un mode de vie sain qui vous distingue de l'obèse majorité réactionnaire. Santé, plaisir, du chemin, le nez dans l'air, découvrir la vie n'est pas un corridor entre un point A vers un point B. Que la vie est partout autour. Arrêtez de tournoyer comme des pitons pour du stationnement. Laissez votre compagnon birou sur le premier poteau en face de la porte et sautez dessus. Alors, les jours de pluie, la société de transport en commun, eh oui, rien de terrible. Juste une autre expérience qui rendra les retrouvailles avec la bicyclette plus radieuse. Et la jolie jupe le vendredi soir? Pensez au bidou épargné en ne possédant pas de voiture. Payez-vous le taxi et saoulez-vous! La liberté du voyage? Souvenez-vous que le covoiturage, c'est pratique, voire gratuit. Qu'il existe une association qui prête n'importe quand des voitures et que le prix de l'abonnement est dérisoire, comme une auto. Chacun son petit monde, la vie dans un pare-brise, comme une télévision, devenue une prothèse pour ceux qui ne sont même plus capables de parcourir le monde, voire du monde. Pantin maladif dépossédé, bourré de pilules. Soyez en forme pour être libre, le jour où votre nouveau mode de vie vous aura enfin libéré de votre ancienne aliénation motorisée, vous ne voudrez plus vous en séparer. Et avec un peu d'organisation, vous vous obstinerez à vélo la majorité des jours d'hiver, et vous réussirez, ah ça oui, par orgueil. Vous regarderez les autres avec pitié et deviendrez un convaincu prosélyte. Adjuvant votre nouvelle foi, de nombreuses compagnies voient l'avantage d'avoir des employés en santé, oxygénés par une balade en vélo le matin pour se rendre au travail. Des employés qui ne rongent pas le volant matin et soir dans des bouchons de circulation. Congestion automobile, concept inexistant ou très drôle pour un cycliste. En plus de mettre des douches à disposition de leurs employés, certaines tours à bureau vont même jusqu'à offrir un libre service de vélo, de sorte qu'ils puissent sortir dîner ou faire leur menu magasinage sur destrier. À part ces mesures exceptionnelles, pas de cadeaux. Les demandes de vélo Québec auprès de la ville de Montréal pour enrichir le réseau des voies cyclables sont restées lettres mortes depuis 15 ans. Dans la banlieue proche, les moyens de piste sont prétexte à faire visiter en zigzag les nouveaux quartiers champignons de maisons toutes pareilles qui ne mènent nulle part. Trop souvent, en fait, les pistes cyclables ne sont pas conçues pour les vélos mais pour les autos. En somme, pour débarrasser la rue des vélos. Non, ce n'est pas parce qu'on trace une ligne jaune sur un trottoir que ça devient une piste cyclable. C'est un trottoir. Et est-ce toujours la rue qui doit avoir priorité sur la voie cyclable? Pourquoi pas le contraire, comme en Suisse ou en Hollande? En attendant, un nouveau monde où la proportion de la rue accordée aux motorisés et celle accordée aux vélos sera inversée. En attendant le jour où seuls les autobus, cubes transporteurs et taxis pourront circuler lentement dans des passages qui ressembleront tous à la rue du Lutte, la plèbe vélocipède du dimanche est confinée à des macaronis cyclables, alternant de charmantes sections avec d'autres où le chemin de l'enfer est mal pavé. Reste l'avant-garde des fous, comme les courriers à vélo qui ne se gênent pas et prennent possession de la rue. Ils réquisitionnent une voie au besoin. Ils ne se laissent pas accoter sur le bord des rangées de voitures stationnées car ils savent qu'une portière pourrait s'ouvrir. Ils se donnent des droits, ils sont porteurs d'un nouvel ordre après tout. Ils payent de leur peau ce nouvel ordre aussi. Des héros de la route qui portent les messages même l'hiver à moins 20 degrés Celsius. Dans la neige et pour des peanuts.
des délinquants peu recommandables peut-être, mais ils sont l'anarchie, la fonction chaos à l'intérieur d'un système bien organisé, mais pas organisé pour les humains, pour les machines. Apprenez à comprendre ce système, soyez-y à l'aise comme cycliste parmi les monstres de métal et glissez aquanaute dans le système. La place ne se demande pas, elle se prend. Quand les intrépides de la roue libre auront instauré une Montréal verte, toute la ville à échelle humaine, le nouvel ordre sera, et les compagnies pétrolières qui décident de la vie et de la guerre ne subventionneront plus la déchéance de notre civilisation.
Un texte de Céline Lavallée, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration de Philippe Laramé.
C'est ce qui conclut cet épisode de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez 2 minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, Marie-Claude Journeau, Aurélie Superchico, Jean-Baptiste Gardarin, Martin-Junior Pelletier, Guillaume Lambe et Annie Schneider. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.